thèse quand même générale, je ne vais pas rentrer, juste un préambule, mais ça paraît important pour parler de mobilité. C'est vrai qu'on peut se poser, on a l'impression aujourd'hui qu'on ne remet pas grand chose en cause, et j'ai volontairement rapproché ces deux couvertures de deux journaux qui ont 36 ans d'écart. Il y en a une qui date, dans 33 ans d'écart, une qui date de 76, c'est la couverture du New Yorker. C'est Steinberg qui avait fait un dessin, comment les Américains, et particulièrement les New Yorkais, voient le monde, donc centré autour d'eux, puis après il y a quelque chose qui s'appelle les États-Unis, et très au loin il y a le Japon, la Russie, et puis la Chine qui n'existe pas. The Economist, qui est quand même un des meilleurs canards qui existe, a sorti récemment, donc c'était en mars 2009, cette couverture, a demandé en fin de compte de reprendre le thème, et puis la façon dont les Chinois voient le monde, et on a l'impression qu'en fin de compte, bon, on est un peu passé plus à l'Est, mais rien n'a beaucoup changé. Et vous voyez que l'Europe se réduit à pas grand chose, si ce n'est une marque française qui s'appelle Hermès. Ça vous donne une petite idée de la façon dont on peut être perçu lorsqu'on est à l'autre bout du monde. Mais ce genre de regard fait très mal. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'on roule dans
les machins. Dans l'Economist, la couverture était meilleure que les articles. J'ai trouvé que c'était le meilleur bouquin.
Probablement. Mais c'est, voilà, c'est efficace, c'est dans le cadre d'un PowerPoint, en tout cas, ça permet de réduire, d'aller vite sur ce qu'on a envie de dire. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'en gros, rien n'a changé. En 32 ans, on va continuer à réfléchir à l'avenir, comme on continue à réfléchir, ou qu'on a réfléchi il y a 30 ans. Et puis, si on continue à regarder un peu la façon dont la presse aborde l'avenir, on a quand même ce genre de choses. Le Newsweek, alors moi celui-là je l'ai acheté au Japon, c'était au mois de mai dernier, je ne sais pas si c'était la même couverture en Europe, c'est Shanghai de Next Detroit, en gros, bah, voilà, donc ça a été nous qui avons une grosse voiture, qui avons ce genre de choses, ça va se produire ailleurs, mais il n'y a aucune raison que ça change. Arrive les gars, on va continuer, de toute manière c'est simplement un léger déplacement. Voilà cette couverture du Time qui est de dire en gros, bah, pas grave, mais on va trouver des solutions techniques, ne remettez rien en cause, et c'est encore la Californie qui va inventer tout, et en tout cas ce qui va inventer ce qui se passe aux États-Unis. Et c'est vrai que lorsque vous allez dans certains pays, bah, j'ai seulement un slide derrière, mais sur l'Inde, c'est vrai que quand vous allez par exemple à Shanghai, vous comprenez bien que les imaginaires sont en train de se déplacer, mais ne sont pas fondamentalement remis en cause. C'est-à-dire que les Indiens ne vous parlent pas des États-Unis, sauf les médecins, les informaticiens qui veulent aller eux là-bas faire fortune, mais qu'on ne parle pas des États-Unis, c'est pas le monde mental, lorsqu'on parle de la vie du futur, l'Europe, nous, on a un joli musée, ne parle même pas de nous. On voit bien qu'en fin de compte, quand on est à Shanghai, il y a un axe, que moi j'appelle l'axe Ayayay, qui est en gros Dubaï, Mumbai, Shanghai. Non, mais c'est fondamental, c'est-à-dire que on a du mal, je pense encore, à comprendre en Occident qu'il y a toute une partie du monde qui va se faire sans nous et qui n'a pas besoin de nous. Voilà. Et on est sur la touche et on continue à réfléchir à l'avenir avec nos outils, avec un certain nombre d'éléments. Lorsque vous passez votre temps à voyager et à regarder un certain nombre de choses, je peux vous dire qu'on est loin d'être au centre des préoccupations. Voilà. Alors, et puis en plus, on peut quand même avoir quelques doutes parce qu'on est quand même en train de changer de monde. On est en train de changer de monde parce qu'on voit souvent, lorsqu'on parle des grosses entreprises françaises, européennes ou américaines, on oublie juste certaines réalités, type la pauvreté. 1 milliard de personnes souffrent de la faim en ce moment et ça devrait s'accélérer dans les années qui viennent, enfin augmenter malheureusement. Puis si vous regardez le tissu urbain, il y a quand même des réalités, il y a plusieurs milliards de personnes qui vivent dans les bidonvilles. Aujourd'hui, le monde, c'est ça. Il faut bien comprendre que quand on réfléchit à la ville, il y a plus de chances que la centre de ville de demain ressemble à Lagos qu'elle ne ressemble à Copenhague. Je faisais un débat il y a 4-5 jours, Jeremy Rifkin, à Hambourg, il y avait un grand congrès des maires sur l'écologie intégrée par les Français. Et lui, il était en train de nous parler d'hydrogène, c'est-à-dire que quand vous rencontrez certains penseurs américains ou occidentaux, vous continuez à s'imaginer que tout le monde est riche et qu'il est bien important et qu'il n'y a aucun problème, tout ça va se développer, arrive les gars. Pas de problème, on va construire des routes, on va faire fonctionner les nucléaires, ben voyons, on n'est pas obligé d'y croire, mais pas aussi joli demain. Et puis il y a une autre mutation qui va faire que ça va s'accentuer, qui me paraît importante, c'est la mutation du capitalisme. Je pense que la force du capitalisme entre le 19e et le 20e siècle, c'est de nous avoir fait passer d'une société pyramidale une société en valeur réglée, c'est-à-dire en gros c'était la classe moyenne qui était dominante. Aujourd'hui, le capitalisme est devenu financier et quand vous regardez les logiques du capitalisme dans les pays en développement, ça ne crée pas de classe moyenne. Lorsqu'on parle de la classe moyenne indienne, on parle de 150 millions d'Indiens qui auraient le niveau de la classe moyenne européenne. 150 millions, je comprends pour des constructeurs, des fabricants, des marketeurs, ça soit beaucoup, mais c'est 150 millions sur 1,2 milliard. Donc c'est pas ce qu'on appelle, on ne peut pas appeler la classe moyenne de 150 millions. Chine, on parle de, des formidables développements de la Chine, on parle des 300 millions de Chinois, on ne parle pas des 1 milliard 100. Donc il y a quand même des réalités. Et puis quand vous regardez les statistiques des pays, enfin, concernant les pays type européens ou les pays d'Amérique du Nord, concernant aujourd'hui le nouveau capitalisme et ses conséquences, c'est plutôt une augmentation des inégalités. Donc l'idée qu'on pourrait passer à la fin du 20e siècle, du 21e siècle, une société, on va dire, en ballon de rugby, une société en sablier, n'est pas réaliste. On peut imaginer que ce qui se passe en Inde, au Brésil, en Russie en ce moment, soit déjà une préfiguration de ce que ça peut être pour nous demain. Alors, terme urbain, ça veut dire quoi? Ça veut dire les images de Sao Paulo, hein, dans la tour, et puis c'est pas un montage, hein, c'est pas du Photoshop, c'est une photo. Ça peut vous donner ça à Mumbai, c'est-à-dire d'un côté les riches et de l'autre côté la réalité. Mumbai, c'est 17 millions d'habitants, c'est 8 millions de personnes qui vivent dans des millions de villes. On estime à 8 millions, parce qu'on ne sait rien, évidemment. Ou alors, c'est, si on reste sur l'Inde, des gated communities avec des Indiens qui s'isolent totalement. Voilà. Vous doutez bien que lorsqu'on parle de sens mobilité, soit on est PSA et on s'intéresse à ces gens-là, soit on se dit, il y a ces gens-là, mais aussi ces gens-là. Et évidemment, les réponses produites vont être un peu différentes quand vous avez trois quarts de la ville qui n'ont pas de route, ou en tout cas de piste. Voilà. Donc, c'est juste quelques réalités. Et puis, pour accentuer les choses, je voudrais juste vous montrer, par exemple, une opération qui est montée. C'est le ministre de l'Agriculture indien est un homme d'affaires. Il y a toujours une très forte collusion entre politique et business. Voilà la campagne qu'il a lancée dimanche, il y a 15 jours, sur Internet, dans la presse, surtout dans le Times of India, il y a des pages entières. En gros, il dit, la ville d'aujourd'hui, c'est ça, ça je vous ai fait le montage, la ville d'aujourd'hui, c'est ça, c'est des embouteillages, c'est la mousson, c'est catastrophique et tout ça. Vous ne pouvez pas rester là, voilà ce que je crée. Donc, il crée des villes à 2 heures de Mumbai, des villes, des gated communities, un peu sur une logique de New Urbanism. Voilà. Donc, il y a aussi, on voit un décalage. Si je vous cite, si je vous dis que le ministre de l'Agriculture est promoteur de ça, c'est pour vous montrer que même à la tête de certains pays, on ne va pas se battre pour en faire des villes. On ne va pas se battre pour changer Calcutta, on ne va pas se battre pour changer. Voilà. On va simplement les faire ailleurs, pour certains. Et puis, on va laisser les pauvres se débrouiller entre eux et tout ça. Donc, quand on parle mobilité, tout ce qu'on entend en France, en Europe, sur la voiture électrique, tatatatata, faut un peu se calmer parce qu'on regarde la réalité du monde aujourd'hui. On n'est pas aujourd'hui forcément dans un monde de demain très bon. S'ajoute à ça comme une évolution, mais j'irai vite sur le changement de climat, sur la façon dont on peut penser l'avenir. Je vous conseille ce petit film qui est sorti il y a maintenant un mois, qui doit être téléchargeable sur Internet, qui s'appelle The Age of Stupid, qui est une rétrotopie, en fin de compte, ça commence en 2100-2120, et c'est une Anglaise qui me fait ça, et on fait la rétrotopie, on revient jusqu'à aujourd'hui, et on voit toutes les étapes qu'on a loupées pour que le climat ne change pas. Et je pense que ce qu'on a vu la semaine dernière en Asie avec la visite d'Obama à la paix ou en Chine est la preuve qu'on est bien parti pour louper toutes les étapes. Et Copenhague, ça ne sera probablement pas une solution. Bon. Ce qui est important, c'est que ça bascule très vite. Vous le savez, mais ça bascule très vite, et ça bascule très vite surtout dans certains pays qui avaient toujours pris ça pour de la fiction. Je vous ai mis volontairement ces deux images. The Day After Tomorrow, c'est ce brillant réalisateur qui avait kiffé 2012 en ce moment, qui est donc une vision très catastrophique du monde. Ce qui est intéressant, c'est que vous prenez cette photo-là, c'était en 2004. C'était Los Angeles, c'était détruit par des tornades, c'était les gens qui quittaient la ville. Enfin, c'était, voilà, c'est ça. La photo d'à côté, c'est pas un montage. C'est la photo du mois d'octobre l'année dernière, où on a vidé juste la 9e et la 13e ville américaine, parce que les cyclones arrivaient, et qu'après Katrina, on a compris qu'il y avait quand même, on rentrait dans un monde de catastrophe naturelle lié au réchauffement climatique. Voilà. Alors, ces photos-là, on les montre pas beaucoup. Il y a que deux voitures de ce côté-là qui vont vers Houston, et puis il y a Houston qui est en train de se vider entièrement. Imaginez qu'on vide entièrement Marseille, donc qu'on vide là. Je pense que nous, en Europe, on est préservés par la catastrophe naturelle et les pays qui sont dedans et qui le vivent de façon beaucoup plus... Alors, ça va être très vite, hein, dans les conséquences. Ça, c'est un projet de maison qui a été présenté il y a 15 jours à la Grande Guyane. Pas un projet qui va se construire. D'un côté, ils ont eu ces images-là. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Quand ils construisent de Nouvelle-Orléans, ben, ils font des trappes sur le toit pour que les gens puissent les donner. Qui aurait imaginé, il y a 10 ans, que si vous voulez, on ferait des maisons de demain avec des trappes sur le toit? C'était quand même pas gagné, c'était pas évident. Souvenez-vous, quand même, de l'état d'esprit de beaucoup d'Américains, même si il ne faut pas confondre les Américains avec Bush, il y avait Bush qui a refusé de signer Kyoto, n'empêche que très rapidement, les 400 maires américains se sont regroupés autour de Mark Nixon, le maire de Seattle, pour faire une fédération et décider au niveau local d'appliquer des droits de Kyoto. Mais voilà ce type de basculement. Et puis ça, aux États-Unis, ça a beaucoup d'impact parce que c'est toute cette opération de reconstruction de la périphérie de Nouvelle-Orléans est soutenue par la Fondation Fermeté Brad Pitt. Donc en plus, il y a un phénomène de cela raison, c'est qu'il y a d'autres pays qui basculent aussi très très vite dans la façon de penser l'avenir. Il y a un autre pays qui connaît, lui, un autre pays riche, parce que c'est intéressant de voir des pays riches qui peuvent agir rapidement sur le climat, ou qui en subissent les conséquences, c'est l'Australie. Ça fait à peu près une dizaine d'années, vous savez, il y a 8 ans, qui subissent une sécheresse assez redoutable. Même situation que les Américains, ils n'avaient pas signé Kyoto, donc ils ont viré Howard, qui était leur premier ministre il y a maintenant un an et demi, ils ont mis un autre qui a décidé de signer les nouveaux accords sur le climat. Presque la vérité, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a toute une pensée urbaine, mais je vais aller vite là-dessus parce que c'est pas le cœur du sujet, mais ça me paraît important lorsqu'on pense à la mobilité, qui est en train de se réorganiser en Australie, un pays où 72% des habitants vivent en périphérie. Et aujourd'hui, il y a toute une logique, comment je densifie le centre-ville. Je pourrais vous parler de Melbourne, je pourrais vous parler de Sydney. On fait des tours, comment je fais de la hauteur. La nouvelle modernité aujourd'hui, lorsque vous êtes à Sydney, c'est d'habiter plutôt dans une tour sur le port. Ce n'est pas d'habiter dans les grandes villas. C'est pour ça que Los Angeles. Les stars australiennes, Nicole Kidman, et tout ça, habitent dans des tours qui donnent sur le port ou qui sont en centre-ville. La nouvelle modernité, elle se fait dans la hauteur, un peu comme à New York dans les années 20. Elle ne se fait pas dans la périphérie. Et donc, ça veut dire qu'on repense centre-ville autour de toutes sortes d'organisations, voici que là. Ce qui est intéressant, c'est que jusque-là, les périphéries, là où habitait la majorité des gens, là, ils ont tous 2, 3, 4 voitures, étaient en dehors de cette réflexion. Ce qui est intéressant, c'est que ça bascule très vite, grâce, parce que là, je vais utiliser le mot grâce, aux incendies qui ont eu lieu cet hiver, l'hiver dernier. Vous avez probablement vu toutes ces images de toutes ces banlieues qui se sont fait bouffer par les flammes en Australie. Il y avait dans les cartons le projet d'autoriser la construction de tours dans les périphéries australiennes de manière à pouvoir construire des métros et à faire que les périphéries australiennes soient mieux desservies. Ça n'était jamais passé. Ça faisait 4-5 ans qu'il y avait tout un lobby, un disque automobile, pétrolière, etc. On disait il n'est pas question de faire de la hauteur, on veut nos petits pavillons, etc. Les incendies ont fait que le Parlement a changé la loi sur le Sydney, le Pays de Galles du Sud, enfin, West, et de dire qu'on va changer la loi. Et donc vous avez en ce moment un basculement sur l'évolution des villes australiennes, si je me concentre sur le Sydney, qui est directement lié à des catastrophes naturelles. Voilà. Et ça, je pense que dans les années qui viennent, de toute manière, il va falloir arrêter de se raconter que le monde va continuer comme avant. Il n'y a jamais eu autant de catastrophes lorsque vous discutez avec les assureurs au niveau mondial ou les assureurs en 2007 ou en 2008. Je ne sais pas ce que donnera l'année 2009, mais il faut comprendre qu'on est dans un monde qui est en train de changer et que l'histoire du climat, ce n'est pas simplement le Bangladesh ou Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on paye deux choses. On paye les deux captations pour un fin de compte qui ruinent nos vies. La captation de la nature par l'industrie, on en paye le prix écologique aujourd'hui, c'est la pollution. Et puis, à la fin du XXe siècle, la captation de l'industrie par la finance, et on en paye aujourd'hui les conséquences financières avec des banquiers qui ont pris le pouvoir aux dépens des sociétés. Ça joue partout. Il se trouve que mercredi, j'ai animé un séminaire avec le groupe Accor. C'était deux jours après la décision du groupe Accor de scinder, vous avez peut-être vu dans la presse, l'activité hôtelière et l'activité du chef de restaurant. Et je peux vous dire que c'est des logiques purement financières qui font une entreprise en l'air, parce que dans l'activité hôtelière, on a aujourd'hui plus de fonds propres, puisqu'elle est complètement siphonnée par les fonds de pension qui sont en train de scinder encore en deux. Voilà. Donc c'est le genre de choses aussi qui aujourd'hui minent les sociétés, mais je pense que vous êtes tous au courant et que vous vivez au quotidien, qui fait que là encore, on n'est peut-être pas forcément les mieux armés quand on voit l'évolution du capitalisme aujourd'hui pour penser demain, pour penser sur le long terme. Moi, on me pose souvent la question, quelles sont les boîtes qui innovent et celles qui n'innovent pas? J'ai presque envie de dire, il y a celles qui innovent, celles qui ne sont pas en bourse, puis celles qui innovent. Celles qui n'innovent pas, elles sont en bourse, celles qui innovent, elles ne sont pas en bourse. Et si vous prenez un centre de boîtes, si vous prenez la distribution, par exemple, Carrefour est mort depuis 10 ans, quand on voit que ça régresse, ils sont en bourse, avec une logique très court-termiste. Renault, je serais pour Renault, depuis que c'est la bourse qui est, ils ont régressé, leur reconstitution de faire, on parlait tout à l'heure sur la voiture électrique, c'est quand même pas gagné, parce que c'est du court-termiste. Il faut quand même savoir que chez Renault, lorsque vous allez chez Paul le matin à Guyancourt, et que vous prenez votre plateau avec le café, il y a le cours de bourse. Donc, vous imaginez comment on réfléchit à l'avenir lorsque le matin, quand vous arrivez, vous avez le cours de bourse de la boîte. C'est pas forcément incitatif à prendre du risque, à penser sur le long terme, tout ça. Il peut quand même avoir quelques doutes là-dessus. Troisième chose sur le paysage mondial, énergie chère. Bon, je vais pas m'étaler là-dessus. Chose intéressante, ça a quand même des conséquences fondamentales. Le baril de pétrole de juin 2008, 147 dollars. Certains pays qui dépendent complètement du pétrole, type les États-Unis, vous pensez que de couverture. On peut nous avoir ce type de couverture, chacun mettra le curseur où il veut. Ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai plutôt une image positive, je souhaite qu'on rentre dans une vraie crise pétrolière. parce que quand vous faites un peu d'histoire sur les crises pétrolières, on est notamment le dernier, celle de 113, enfin la crise énergétique, vous apercevez qu'en général les crises sont formidablement génératrices de nouvelles idées. Il y a eu à Montréal, il y a un an et demi maintenant, une expo qui s'appelait Les Olympiques d'essence, 73 Olympiques d'essence, et qui montrait très bien que maintenant que la crise de 73 avait généré toutes les innovations HQE ou énergétiques dont on parle aujourd'hui. C'est-à-dire que malheureusement, ce qu'on annonce et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'était là en 73. Alors, peut-être pas techniquement, tout ça, mais les panneaux solaires, les éoliens, en fait, tout ce qui était, tout ce qui est devenu à la mode, un peu une tarte à la crème, en disant c'est une réponse technique, c'était là en 73. Et je vais vous montrer de façon encore plus. Alors voilà, dans l'expo, il y avait ça, il y avait plutôt sur la mobilité, mais il y avait ça. Je vais vous montrer que ces deux images que j'ai rapprochées. Dans l'expo, ils ont montré cet immeuble de 76, New York 76, des écolos prennent un immeuble dans le sud de Manhattan, et le prennent et mettent une éolienne, mettent du solaire dessus. Bon, l'immeuble n'est pas pris d'amour, je vous l'accorde, et reste la vie 2 ans, 3 ans. Après, ça disparaît, c'est une fête. Un an après, vous avez cette affiche-là dessinée par Brice Lalonde dans le cadre des municipales premier tour contre Tibéri, déjà à l'époque, 77. Donc, un an après. Vous reprenez cette affiche-là, c'est donc les mêmes codes, l'éolien, le solaire, les fermes urbaines, Jussieu, vous voyez, qui est désorienté avec des arbres, même une éolienne, parce que ça c'est voilà, terrible de la Seine, on vous baigne dedans, je ne fais pas d'allusion, du vélo en hydroservice, ça. Cette affiche-là, elle a 32 ans. Vous la montrez aujourd'hui, c'est exactement l'imaginaire du bobo bourgeois parisien d'aujourd'hui. Elle a 32 ans. Et en 1973, je vais passer. Vous voyez bien que sur des crises, moi j'ai dit que c'est vrai que je serais plutôt en tendance, mais je ne vais pas faire référence à l'émission d'Ockrent, de Yves Montand et de eBay il y a une vingtaine d'années, mais vu la crise, c'est-à-dire que c'est pas si dramatique que ça, on va pouvoir s'en sortir, en tout cas les crises sont généralement formidablement génératrices de nouvelles idées. Et puis on voit que ça bascule très vite. C'est-à-dire, je ne vais pas vous parler trop du Japon, mais on voit bien que le Japon aujourd'hui, sur tout le discours technique et tout. Il y a un siège.
Je vais pas le faire en
arrière. Je crois que c'est réussi là. C'est bon.
Arrivé discret.
De devant, ça reste camelou.
Hein. On n'a pas le nom, remarque, avec tout ça. Ah, c'est bien. Quand on regarde, si vous voulez, bon, sur le Japon, je vais pas en parler, on voit des basculements aujourd'hui par rapport à la façon de penser, je peux vous parler du train, juste comme ça, alors, c'est pas plus vite, c'est autrement, sur la voiture, etc. Le discours technique, tout un discours est en train de disparaître au Japon, et l'évolution est très forte. Et puis, vous voyez très bien que lorsque vous consultez des gens sur les avenirs urbains, ils vous racontent des histoires qui sont complètement différentes de ce qu'ils connaissent aujourd'hui. Il s'est passé l'hiver dernier, il y a 2 ans, San Francisco, le concert du Grand Paris, c'est-à-dire que mon lieu de demander à une dizaine de plus d'architectes de 60, 65 ans d'imaginer l'avenir. Évidemment, c'est très long, très moderne. C'est le Grand Paris, c'est une catastrophe. On va chercher des vieux asmines qui sont là depuis 40 ans, qui n'ont jamais bougé, on leur demande d'imaginer l'avenir. Clouche, c'est d'être le plus jeune, qui a 35 ans. Et en plus, ils sont tous, moi je l'ai consulté par 3 équipes, ils se sont mis entre eux, hier on avait tous plus de 40 ans, quoi. Ils se sont mis entre eux, ils se sont pris entre chercheurs, donc évidemment ça donne un résultat dans toute l'équipe. On a cherché Castro, on sait quoi. Non, ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous regardez. J'adore Castro, je peux vous l'assassiner en 2 minutes. À San Francisco, ils ont fait contact, c'est-à-dire qu'ils ont été voir 12 000 personnes, et puis ils ont pris une heure en disant voilà, votre ville, vous n'avez pas de contrainte financière, imaginez ce que c'est. Et ce qui est bien, c'est alors il y a eu 12 000 verbatim, ces verbatim, ils ont fait des grosses patates, en gros, ils ont fait ça, une dizaine de patates, et puis ils ont donné ça à 2 graphistes, et puis ils ont dit voilà, ce que nous ont raconté les gens, résumez-nous en une affiche ce que les gens disent. Voilà. Il y a eu 10 affiches, en plus, ces affiches ont été mises sur le réseau équivalent de cours en Abrébus, donc en plus, ça a irrigué les imaginaires des gens de San Francisco, donc ça a permis de lancer le débat, ça rendait des images désirables. Bon, et l'une des affiches était de dire bah, pourquoi, par contre, San Francisco n'est pas un grand parc, pourquoi on est dans des logis, en fin de compte, qui datent du 19e âge, du 18e siècle, avec des rues et tout, pourquoi on n'imagine pas. Bon, évidemment, ça ne fera pas trop. Mais ce n'est pas inintéressant. C'est-à-dire que ça participe à d'autres basculements. C'est terminé il y a maintenant 2 mois à Londres, et c'est pour montrer que les imaginaires urbains basculent, une expo qui était, et si si Londres venait nous fermer. Je vous rappelle simplement un chiffre, chaque élément qui arrive dans votre assiette a fait en moyenne 1500 km. Vous mangez un yaourt, il a fait en moyenne, si vous prenez tous les éléments, le lait, le packaging, l'idée qu'il arrive dans votre hypermarché, entre, si vous voulez, je prends les produits naturels, j'en fais des produits industriels et je les remets, fait 1500 km. Si on voit les réalités écologiques, énergétiques et tout, on peut se poser des questions sur est-ce que ce régime est viable dans les années qui viennent. Est-ce que, voilà, on peut avoir des vrais doutes. Et donc, vous aviez des choses qui étaient encore improbables il y a 10-15 ans, qui étaient de dire, s'il faut faire de la ferme, et ça revient d'ailleurs, le petit carré de tomate qu'on voyait là, sur les fiches de Cristallon, ou de choux, ou de salade, c'est si les villes devaient avoir de la ferme. Voilà. Alors, les fermes verticales, ça, vous avez probablement vu, reste qu'aujourd'hui, alors ça vient d'entendre des choses comme ça, est-ce qu'aujourd'hui on est capable de penser autrement et quand on pense à l'avenir, pour l'intégrer. Plan d'urbanisme à 20 ou 30 ans sur les trois. En gros, on nous refait les villes jardins du 19e siècle. Qui aurait imaginé que Détroit, qui était le symbole de l'évidence de la ville de la Bagnole, en 2020 ou 2030, ou même déjà aujourd'hui, on est en train de se dire c'est un système urbain qui ne marchait pas. Il y a tout le phénomène des shrinking cities, parce que au Japon, aux États-Unis, dans l'Europe de l'Est, qui fait que les villes rétrécissent. Quand on parle de croissance urbaine, c'est pas la croissance urbaine partout. Il y a des villes qui sont en plein déclin et qui vont devoir repenser leur avenir, c'est pas la mobilité. Là-dedans, ça pose plein de problèmes. Puis vous avez des basculements trop rapides. Vous avez quand même 6 mois d'année cet hiver à Pékin, où il y a une circulation alternée. C'est des gens qui ont découvert la voiture il y a 15 ans. Ils se vendent 2400 à 2500 voitures par jour en Chine aujourd'hui. Ils sont déjà en train de se poser des questions sur le modèle automobile. Alors, en ce moment, ils me soutiennent parce que ça soutient l'industrie pour un certain nombre de choses. Mais je peux vous dire que les potentats du PC commencent à en avoir marre de vivre dans la pollution. J'ai dîné la semaine dernière avec Daniel Kuckerman, qui est patron de Veolia Asie, donc qui s'occupe notamment de ses problèmes d'environnement. Il me dit que la classe dirigeante chinoise est en train de se poser des questions. Donc ils ont découvert la voiture il y a à peine 10 ans, ils la remettent en cause. Et ça, c'est quand même un basculement énorme. Moi, j'appartiens à une génération, quand j'étais jeune, on se foutait de la gueule des Chinois parce qu'ils étaient en vélo, puis les Chinois étaient vachement meilleurs parce qu'on était en bagnole. Maintenant, le Parisien me dit non, mais moderne parce que je suis en vélo, et les Chinois, c'est des cons parce qu'ils sont en voiture. C'est juste le contraire de ce qu'on a dit il y a 30 ans. Non, mais c'est la réalité. Voilà. Donc les basculements ne sont pas inévitables lorsqu'on pense à demain. Et puis, ça, vous devez connaître, c'est Mazda. Donc, c'est la ville, une ville qui devrait se faire, qui a plus de chances de se faire à Longtan, donc à Shanghai. Qui est une ville donc sans CO2, sans émissions, donc sans énergie fossile. Qui aurait imaginé que c'était dans une puissance pétrolière, à savoir Abu Dhabi, qu'on imaginerait avec le poste de pétrole, c'était pas non plus gagné. Mais si en fait, en même temps, c'est logique, c'est-à-dire que c'est des gens qui dépendent tellement du pétrole, qui sont obligés évidemment de passer le poste de pétrole. Et d'ailleurs, si on peut venir sur les villes arabes, on peut faire ce type de scénario sur les modèles urbains de demain. Et si la ville arabe, dans 50 ans, est un modèle pour une partie du monde, que ce soit le sud des États-Unis, que ce soit le sud de l'Europe, c'est-à-dire la densité, la zone piétonne, Rabat, Marrakech, ça c'est Mazda. Voilà. Est-ce que, alors je comprends bien que c'est pas évident d'aujourd'hui la ville arabe comme modèle urbain de demain, mais on n'est pas obligé, je ne sais pas si on doit s'interdire ce genre d'affection. Et vous comprenez bien que la mobilité, elle a un autre visage que la mobilité qu'on essaie de nous dessiner aujourd'hui autour de la voiture, de l'autoroute, tout ça. Voilà. Et les moins essentiels, c'est surtout qu'en ce moment, on est en train de vivre 4 siècles, la fin de 4 siècles d'histoire, où on était persuadé, en gros, que c'était nous, les Européens, les Occidentaux, qui inventions la modernité. Alors, il y avait eu un débat au début du 20e siècle sur, au Japon, qui était la modernité est-elle forcément occidentale. Je pense que dans les années qui viennent, c'est un débat qui va réapparaître. C'est-à-dire qu'on est encore persuadé que c'est nous qui inventons l'avenir, peut quand même avoir quelques doutes. Un exemple, l'autre jour, je me suis retrouvé dans un hôtel à New Delhi avec des gens de Kinshasa, le gouvernement des Congolais, qui venaient d'acheter le métro de Kinshasa aux Indiens. Voilà. On n'est pas obligé de faire concessionnaire pour sur les métros et tout, vu ce qui se passe avec le métro de Delhi qui s'est écroulé cet été en partie, mais voilà. Il y a des réalités qui font que il y a des liaisons sud-sud. Je peux vous dire que chez PSA, chez Renault ou chez d'autres industriels, ils sont en train de voir qu'il y a du sud-sud et puis qu'on n'est pas forcément au centre du jeu. Je parle pas de la France, je parle de l'Europe ou même du monde occidental. Bon. Moi, j'appartiens à une génération où voir un Chinois dans l'espace comme c'est ça, c'était juste dans Black et Mortimer, et c'était un infâme Aldrich qui l'avait envoyé pour nous attaquer. C'était la menace jaune, et tout comme ça. Aujourd'hui, mon fils qui a 11 ans, voir un Chinois dans l'espace, c'est normal. Pour moi, c'est toujours pas normal. Je vous rappelle. Non, mais c'est vrai, pour moi, quand on était cosmonaute, on était soit russe, soit américain. On n'était pas chinois, ils étaient en vélo, donc ils étaient dans l'espace. sur le tour du monde avec mes enfants il y a 2 ans, hein, on arrive à Shanghai, et ma fille me dit, papa, tu m'as dit que la Chine. Moi, j'avais décrit la Chine avec mon degré de lecture de vieux con. Enfin, ah bon ? Elle me dit, c'est encore plus moderne que New York. Enfin, elle ne comprenait pas ce que je lui ai raconté sur la Chine, le communisme, là, quand elle est dans une ville, elle ne comprenait pas la différence. Et quand. Non, d'ailleurs, on n'avait pas été à New York. Elle connaissait les États-Unis, on n'avait pas été à New York. J'ai amené à New York après, elle me dit, ah, c'est ça, New York ? Elle était presque déçue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous amenez. Quand ils visitent l'Asie avant et ils visitent les États-Unis après, ils sont presque déçus. C'est-à-dire que l'idée de la hauteur, tout un développement se passe en Asie. Voilà. Alors, ils trouvent New York fabuleux pour plein de choses, le magasin, le shopping, etc. Mais c'est pas là le choc de génération, la claque, la gifle qu'on se prenait. On se la prend en Asie, on ne se la prend pas aux États-Unis. Et puis quand on regarde comment les jeunes Chinois imaginent la voiture demain, vous voyez bien que les références, c'est plus ce parentin que d'autres choses. D'ailleurs, c'est intéressant, ça, je vous ai fait la photo, alors excusez-moi, j'ai fait ça avec une fois, mais rapidement, c'est. Le Time de cette semaine, quand on voit les basculements, voilà, on voit ce type de littérature aujourd'hui dans le Time de. Oui, je crois que c'est cette semaine, la semaine dernière, je sais pas. Qu'est-ce que les États-Unis vont apprendre de la Chine ? C'était pas là non plus, si vous voulez, en termes d'urbanisme, en termes d'infrastructure prospective, quelque chose qui était évident il y a quelques années. Souvenez-vous qu'on était encore en train de leur faire le sourire, les Américains leur faisaient encore le sourire il n'y a pas si longtemps. Alors, ça veut dire quoi, Yaba ? Ça veut dire qu'il y a une sorte de fin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quand même globalement sur des rythmes et sur des histoires qu'on se s'entend. Ça, c'est un film des années 50. C'est un film, en gros, qui n'a pas changé, sur lequel on vit toujours. Non, hier matin, je faisais une conférence juste à côté, là, chez TF1. Et je leur disais, en gros, ben, les spots de pub, je leur ai montré notamment ce là, les spots de pub que vous passez à 20h30 sur TF1, c'est les spots de pub des années 50. Ils vendent la bagnole, hein, c'est les hypermarchés, la bagnole, le pavillonnaire. Localement urbain, la distribution spécialisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'on est persuadé d'être moderne. C'est un modèle inventé aux États-Unis dans les années 50 et qui avait été imaginé par General Motors dès 1939 dans le Futurama, présenté à la Fête internationale de New York. Vous connaissez cette photo où on voit des gens fascinés sur des autoroutes et tout ça. Et on vit là-dessus. Alors, aux États-Unis, ça a présenté ça, dans les années 50. Dans les années aujourd'hui, avec une façon maximale, ça présente ça. Alors moi je fais souvent des conférences dans des maires, vous voyez les maires au premier rang, ils sont contre les Américains, et puis vous voyez monsieur le maire, vous dites que c'est ça. Ça ce sont des images Google de villes moyennes européennes, françaises. C'est-à-dire qu'en France, on a eu exactement le même développement. C'est-à-dire qu'on a un paradoxe, c'est qu'on a une classe politique très anti-américaine, mais on a probablement le développement urbain le plus américanisé qui soit. Alors c'est marrant parce que les maires en général, ils vont jamais sur Google, c'est pas la génération qui va aller sur Internet en général. Alors quand vous mettez un truc comme ça devant le maire de Rennes ou ça, les clics comme ça, voilà, non, c'est votre truc. Ah non, et vous lui posez une question, monsieur le maire, comment marche votre ville avec un litre d'essence à 2 €? Donc on est aujourd'hui, il faut bien avoir conscience, sur un système urbain d'une très grande fragilité. Le litre d'essence est à 1,50 € au mois de juin 2008. Les hypermarchés de la région parisienne, notamment Auchan, je sais qu'il y a quelqu'un de Auchan, je crois. Les hypermarchés, les chiffres ont été redonnés, c'est entre -8 et -10% sur une bonne part des magasins de la région parisienne. Donc je dirais, -8, -10, c'est pas, je pense qu'il y a moins de dire, c'est des chiffres qui ont été vraiment une vraie coupure. En général, c'est des chiffres dignes des travaux. C'est quand vous restructurez un magasin, vous arrivez à -12, -13, mais il y a eu une vraie coupure. Donc il faut bien comprendre aujourd'hui qu'on a tout un réseau urbain, un réseau de mode de vie qui est fondé sur de l'essence pas chère, sur de l'énergie pas chère, et que tout ça, a priori, on peut quand même imaginer que ça devrait changer dans les années qui viennent. Je vous conseille de vous organiser cette semaine, je ne sais pas si j'ai mis la photo, non. Mais il montre, en gros, et on voit très bien, ça, en gros, il y a 30 ans, il y avait 3 zones qui consommaient du pétrole, c'était l'Europe, le Japon, les États-Unis. Aujourd'hui, c'est le monde entier. On va plutôt nous réduire notre consommation, et pour voir la croissance des autres, on se doute bien que le litre d'essence, le baril d'essence à $147 qu'on a produit en juin 2008, ça va être de la rigolade dans les années qui viennent. Et on a tout un système urbain, un système économique qui est fondé là-dessus, sur l'essence pas chère. Voilà. Et qu'on ne se rend compte pas que c'est l'électricité qui va tourner. On en reparlera. Donc, dans les pays qui sont aujourd'hui touchés par ça, voilà le type de littérature que vous voyez. Et puis, il y a des réalités. Si je vois chez Renault ou chez PSA, ils étaient tous goguenards quand General Motors s'est planté. Ah, quand même, ils sont un peu américains. Hein. Et bien, une espèce de. Nous, on n'a pas le fou. Quelques mois après, ils ont fait comme. Il n'y a pas forcément raison. Et une autre réalité, donc on n'a absolument pas parlé, il n'y a pas eu un mot dans la presse française, les grandes européennes de façon générale, c'est que pour la première fois en 2007, et ça a été confirmé en 2008, aucun centre commercial indoor ne s'est créé aux États-Unis. Donc quand vous accumulez, si vous voulez, le plantage de General Motors et pas de centres commerciaux, hein, c'est 50 ans d'histoire qui prennent ça. Alors c'est pas forcément le pétrole, il y a beaucoup d'autres. 10% il y a 15 ans. La différence, c'est qu'aujourd'hui, le magasin n'est plus un lieu de destination. On fait de plus en plus ses courses à l'occasion d'un déplacement. Voilà, donc ça fait 88%. Mais 88% distribution, non. Et d'ailleurs, certains en prennent acte. La croissance, par exemple, d'un groupe comme Auchan se fait pas simplement autour de l'hyper, même de moins en moins, même s'ils ont des 2-3 méga hyper, se fait autour du premier parage, comme ça. C'est-à-dire, je commande sur Internet et en passant, voilà. Moi, je travaille avec Amerson sur la restructuration de Bercy 2, vous savez, la baleine de piano, de Renzo Piano, sur à l'est de Paris, vous voyez tous cette grosse baleine blanche. On a travaillé, alors aujourd'hui ils n'ont plus de fric parce qu'avec la crise il y a plus de groupes anglais tout ça, mais c'était l'idée, c'était de dire, est-ce qu'en fin de compte il ne faut pas repenser toute notre distribution sur le fait que les gens passent, et de façon écologique, redévelopper le driving comme solution écologique. C'est-à-dire que c'est un paradoxe. Le driving est associé à la bagnole et est associé donc à la pollution, mais on peut faire au contraire l'idée de dire que le driving peut être une solution écologique, parce que ça évitera d'aller au magasin et que c'est le magasin qui viendra à vous, là il va s'installer où il y avait les flux. Avant, en gros, c'était quoi? C'était je me mets dans la pampa, j'arrose quelques enveloppes, les élus vont financer une route, une rocade, tac, je me mets n'importe où, et puis les pouvoirs publics vont payer la route. Voilà. Aujourd'hui, c'est de dire, ben non, bon, alors ça s'est diversifié, ça s'est organisé, tout ça. C'est aujourd'hui, est-ce qu'on ne doit pas repenser complètement la distribution autour d'un couple de voitures mobilité, notamment, enfin, voitures mobilité du centre de et se mettre là où passent les gens, et inverser, c'est plus aux gens de venir à nous, c'est à nous d'aller là où les gens vont reparler tout à l'heure. Voilà. Alors, en France, encore, on a rigolé, quand je montre ça, ça fait rigoler tout le monde. 182 chez Renault. Hein. On a quand même osé sortir ça. Ouais. Et dire, c'est, voilà, c'est quand même, ça fait peur, c'est quand même pas si vieux que ça. Bon. Alors, on voit que ça marche un peu, ça bouge un peu la marge. Là, par exemple, lorsque vous allez au IKEA de Toronto, vous commencez à avoir des véhicules hybrides, tout ça. Bon. Je vais pas faire un couplet anti-voiture électrique, mais il faut se calmer. Hein. Si la voiture électrique, dans 20 ans ou 30 ans, représente 15% du marché mondial, ça sera déjà un summum. Bon, et en plus, il faudrait savoir comment va être produit l'électricité qui va donner les voitures électriques. Dans certains pays, l'Australie, 84% d'électricité, c'est du charbon. La Chine, ça doit être 80%. Si on prend le cas de la France, on nous a raconté que le nucléaire nous a sauvés. Quand on voit qu'on va être obligé d'importer de l'électricité cet hiver, quand on voit le verre que la lumière plante et tout ça, nos centrales sont vieillissantes. Là, on se prépare aussi 15 à 20 ans sur le nucléaire en France, ça va être un peu chahuté. C'est-à-dire que la belle histoire qu'on nous a racontée, nos enfants vont peut-être arrêter d'y croire. Il y a quand même de plus en plus de pépins. Ça ne fonctionne pas, ce qu'on nous a raconté. On va avoir les déchets à gérer, ce que nous n'avons pas eu à gérer nos générations précédentes. Et puis, peu à peu, ce que fait arriver au Niger, ça va commencer à revenir, c'est-à-dire par Internet, par la télévision, la pollution. On va faire le bilan total du nucléaire entre l'extraction d'uranium et les déchets, l'escroquerie du nucléaire propre. Peut-être un peu se calmer sur le truc. Donc il faut apporter un bémol. C'est-à-dire que les voitures électriques, ça déplace le pot d'échappement. Le pot d'échappement, il fait 100 mètres de haut, il est à 100 km de la ville, mais il y a quand même un pot d'échappement. Donc ne cessons de. Et moi, d'autant plus facilement, je vais le dire encore chez Renault, devant Gaume, c'est fait la table lundi matin, parce que je pense devant eux, il faut un peu se calmer. Hein. Si on pense à la voiture électrique, c'est. Il faut remettre en cause complètement le système de la voiture électrique, c'est pas des grosses voitures telles que les imaginent, en tout cas 3 des 4 des grosses voitures qu'ils imaginent. Alors. Sur les imaginaires, on voit bien que ça bascule. Ça, c'est ce qu'a présenté Chrysler au salon de Détroit, la Pipod. Alors, ça remet tout en cause, ça, parce que déjà, c'est une voiture sans coffre. Donc, ça veut dire tout le système urbain de distribution à 100 km de la ville, le centre commercial, chez mes courses une fois par semaine, on ne fait pas ces courses en ville. Il n'y a pas de coffre. Le hypermarché, il marche parce qu'il y a un coffre. La distribution marche parce qu'il y a un coffre. Au Japon, ils n'ont pas de voiture, pas de frigidaire, pas de grand frigidaire parce qu'ils ont des cuisines, donc ils font leurs courses tous les jours. En France, on est comme aux États-Unis, on a des grandes voitures, des grands coffres, on a globalement, sauf les Parisiens, des grandes villes, des grandes cuisines, des grands frigidaires, on fait ses courses une fois par semaine. Si vous enlevez le coffre, comment on fait les courses? Et regardez, en plus, pour vous dire, déjà, ça serait ça à dire, et en gros, la seule chose qu'ils ont à dire, c'est vous pouvez brancher votre iPhone. Ce qui est quand même un basculement. Voilà. Et ça s'appelle Chrysler. Voilà. Mais moi, j'ai envie de dire, quand j'ai vu les gens de Chrysler il y a un an et demi, enfin il y a un an, je ne sais pas, mais ça, moi, ça fait 10 ans que je vois en Chine, le chaud électrique, je le vois là. Voilà. Qu'est-ce qui fait, je raconte ça à Lionel Rich, qu'est-ce qui fait que la mairie de Paris, qui n'arrête pas de nous parler de voitures de libre-service, tout ça, qui dépend encore des constructeurs automobiles français, là, pourquoi ils vont prendre un autre? Ça va nous délire de 2005. Petit riche électrique. Ça correspond à 95%, de pas 99% de la mobilité individuelle dans les mois. Qu'est-ce qui empêcherait de la Noé, comme Bloomberg a dit en 2011, que les taxis de New York sont hybrides, qu'est-ce qui empêcherait de la Noé d'avoir un peu plus moi, j'ai dit, on arrête les gros mètres, les taxis, aujourd'hui, ils vont ressembler à ça. Voilà. Vous allez en Chine, vous avez ce type de choses. Et j'apporte moi, tiens, que là, ça a un sens d'électricité, parce que ce sont des petits, c'est des petits objets, parce que ça ne consomme pas beaucoup, etc. Et là, l'électricité. Mais sachez que si 10% de parc français est de passe sur électrique, c'est quand même sur un nucléaire en plus. Une, voilà, 10 ou 15%, je ne connais pas les chiffres, c'est des spécialistes dans la salle, je crois, je vais vous les chiffres derrière. Mais voilà, mais là, on peut commencer à penser. Ouais, je ne vais pas vous vendre une carte de ce que je voulais dire, c'est pas grave. Voilà. Quand vous allez à Londres, on parle de ça, et quand les Allemands vous parlent de l'avenir, on parle de ça. Voilà. C'est juste pour que ça te mette l'arène électrique. Qui aurait imaginé les Allemands, qui vous sortent les grosses voitures, pourraient imaginer ça demain. Et alors, avec les gens de Volkswagen, je les ai vus là, lundi, ils étaient à Hambourg. Je leur dis, mais pourquoi vous avez des 28 qu'est-ce, à limite, vous mettriez ça en libre-service à Paris, ça marcherait très vite. Bon, c'est juste de la com de Volkswagen, parce qu'ils ont la trouille que la Commission européenne leur tape dessus. Enfin, c'était avant la crise. Leur tape dessus parce qu'ils étaient pollueurs, donc ils ont montré qu'ils avaient pensé à l'avenir. Voilà. Et puis, à Los Angeles, il y a eu le 5 novembre dernier, le jour de l'élection, il y a eu un référendum sur la restructuration des transports à Los Angeles. Pas une en France, alors que c'est fondamental. Los Angeles est en train de s'orienter sur une ville post-voiture. Ce qu'ils ont gagné, donc ils ont organisé Los Angeles, hein, aboli la révolution. Et donc, ils vont réorganiser tous les transports, ils vont organiser plein de choses. Ils ont fait un coup d'idée et ils ont dit, ben, dites-nous comment vous imaginez. Voilà le type de réponse qu'il y a eu. Et encore, c'est voiture électrique, c'est plus un modèle indien, évidemment, qu'un modèle. Alors, on a nos amis PSA et Renault qui sortent ça. Mais on a des évolutions aussi passionnantes, c'est-à-dire que vous avez des pays qui n'ont pas de culture automobile. Et eux, ils innovent beaucoup plus que nous. Vous savez que les Japonais ont construit leur première voiture en 1952. C'est les chaînes de montage de l'armée américaine, produit par Toyota, qui, après la guerre de Corée, s'arrête. Donc, les Japonais construisent des voitures. Mais c'est un pays qui a connu la route très tard et qui n'a pas une culture automobile. Ce qui fait qu'ils ont une approche de l'automobile et de la mobilité urbaine qui est complètement différente. Cette photo, je la montre depuis longtemps parce qu'elle m'a marqué 2001, aéroport de Tokyo. Je m'en trouve dans la queue d'avion et je vois une dame qui avait un siège, comme vous voyez aussi bien que moi, qui a c'est son petit-fils qui a dû le coller à notre volant. C'est comme une chaise roulante avec marqué Porsche, quoi. Je suis obligé d'y croire. Et en me rapprochant, j'ai vu que c'est pas du tout, c'était cousu. Et j'ai vu, en fin de compte, sur la structure du fauteuil que c'est Yamaha. Donc j'ai commencé à enquêter, je me suis intéressé. Ce qui est intéressant, c'est que chez Yamaha ou chez Toyota, ou chez Nota, comme ils n'ont pas la structure réponse produit, ils se disent, nous, le problème, c'est qu'on a des vieux qui sont très vieux. C'est-à-dire qu'en gros, en France, les acheteurs de voitures neuves, je vais faire plaisir à toutes les personnes ici, ce sont des vieux. Puisque vous savez que l'acheteur de voitures neuves, l'âge moyen d'être acheteur de voitures neuves en France, c'est 54 ans. Donc, c'est la voiture, c'est un truc, c'était 52 ans il y a 2 ans, c'était 50 ans il y a 4 ans. On attend les chiffres là, fin 2010 pour l'âge moyen. Voilà. Et eux, c'est des vieux, c'est des vieux, 70 ans, 80 ans, je rassure là. Voilà. Donc, et qu'il y a des gens qui n'ont pas de culture de revenus. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un produit qui n'est pas forcément un produit là, et ils repensent la mobilité autour de choses. C'est-à-dire que ça les booste complètement. Et ils repensent, quand ils pensent à l'avenir, quand ils pensent à ce genre de choses, autour de la proximité. Alors, la distribution s'organise autour de ça permet. Les villes japonaises le permettent. Mais ils n'ont pas une réponse voiture. Et là, l'électricité pour les faire avoir un sens. Parce que là, la consommation électrique, elle a un sens parce que c'est un petit objet. Mais quand on voit Renault, je ne sais pas si vous avez été à l'atelier Renault la semaine dernière, ils présentaient leur carte modèle, il y en a un qui a un sens, qui est la Twizy, vous savez, qui est la salle de place avec les quatre roues, mais les autres, c'est des aberrations. Quand on repense le moteur, on est obligé de repenser l'objet automobile. Et là, absolument, on ne repense pas l'objet automobile. C'est exactement comme les constructeurs, et je vais arrêter là-dessus, qui ont imaginé la voiture du futur à partir du carrosse, comme vous pouvez aller, voilà. Voilà. Et puis, je finir deux images simplement pour montrer. Je reviendrai la semaine prochaine. Pour vous montrer les basculements, dernier General Motors qui a été présenté le 7 avril dernier, c'est ça. C'était quand même pas gagné d'avance que General Motors. Donc, General Motors s'est complètement planté. Donc en fin de compte, ils ont signé un accord avec le Segway. Ils ont mis deux sièges. Vous pouvez le tester dans le sud de New York. Il y a des zones où vous pouvez le tester, près de Times Square. D'ailleurs, Times Square, il y a des piétons. Là encore, basculement rapide. En plus, sur le Segway, c'est la fiche que vous avez sur la page média de General Motors où en gros, ils expliquent que ça fait quand même 40 ans qu'ils font des grosses voitures, mais c'était pour préparer ça. Vous allez croire, mais c'est bien joué, les gars. Vous avez eu raison. C'est et voilà ce que General Motors a à dire sur la voiture de demain. C'était pas là non plus gagné. Et puis alors, ok, c'est pas très sexy, mais je pouvais pas ne pas en parler. C'est pour vous montrer comment d'autres pensent à la mobilité urbaine, et comme ça. C'est des prothèses. Voilà. Pourquoi? Parce que les Japonais n'ont jamais. C'est à chier. Je suis d'accord avec vous. Et souvenez-vous ce qu'on disait en 76, quand les Walkman sont arrivés. on serait tous autistes, c'est un peu de taré et tout, on prenait l'ignorant du métro. Le cadre maintenant, avec sa cravate, il a un casque. Donc des choses qu'on a refusées par le Japon, ce sont quand même. D'ailleurs, quand vous regardez la mobilité aujourd'hui, elle s'invente au Japon. La mobilité aujourd'hui, dans les jeunes générations, c'est quoi? C'est le train qui va vite et qui prend, c'est le Shinkansen. C'est les petites voitures, c'est les japonaises. C'est les voitures électriques, c'est les japonais. C'est le téléphone mobile, c'est les japonais. Tout ce qui se passe aujourd'hui sur l'iPhone existe au Japon depuis 10 ans déjà. Donc, c'est quoi? Une culture, pas de voiture. Ils ont refusé la roue pendant longtemps. Ils ont donc une culture du robot. Et là encore, ça c'est lié à la culture manga, par exemple. Là encore, c'est des univers qu'on ne connaît pas, je finirai là-dessus. Qu'est-ce qui se passe au lendemain de la guerre? Les Américains arrivent avec des comics avec les super-héros. En gros, on est puissant, on est fort, la nucléaire est encore plus fort, voir Captain America qui est bien fort parce qu'il y a le nucléaire. Les Japonais disent, nous le bon nucléaire, c'est pas marqué sur la figure, donc on est peut-être pas obligé d'y croire, mais c'est un grand plus fort. Le coup des super-héros, on est pas obligé d'y croire, on est comme les samouraïs et les kamikazes, et on se casse avec une tôle. Et puis, en gros, nous dire que c'est les adultes qui sont raisonnables, on n'y croit pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout le contraire. Ils font Astro Boy. Ils font un petit garçon au robot. Alors, quelqu'un a permis parce que c'est quand même de la puissance, mais c'est le contraire du super-héros américain. C'est 53. 64, ils sentent le besoin de personnifier. Ils créent Ted Jim 28, c'est le petit garçon qui dirige le robot. 75, Goldorak ou Matzinger, selon les pays, c'est le petit garçon dans le robot. Souvenez-vous, 75, c'est dans la tête. Nos gamins, aujourd'hui, ils jouent à Suite Gundam sur le PS3, sur le PS2 et tout ça. C'est le garçon dans le robot qui fait la guerre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'ingénieur de Toyota, ça fait 45 ans quand il a la lune à NHK le matin, qui voit le robot comme un transport. Aujourd'hui, il est capable de voir. C'est ça. Voilà. Donc là encore, c'est d'autres modèles qu'on n'a pas vus. Je peux vous dire que quand vous venez chez nous, vous me dites à l'avenir, j'ai vu dans les mangas, le mec est gentil, écoute, on va trop signer un contrat parce qu'on t'aime bien, mais voilà. Donc il y a parfois quand même des choses où ça prend un peu de temps. Voilà. J'ai été trop vite, j'ai été très brouillon. J'ai absolument pas répondu à vos questions, c'est pas grave, j'ai mis le bazar, j'aime bien ça. C'était juste pour vous inciter à réfléchir à votre demande. Merci.